Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir, comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles? Ben, ça serait le désastre social total. Total, et il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido si indie, comme disent les gens savants. Donc je ne suis pas.
Bonjour et bienvenue dans Libido Sciendi, une émission qui prend le temps d'écouter la recherche. Aujourd'hui, on va parler de littérature du 19e siècle. Et plus précisément, on va s'intéresser aux personnages sans sexualité dans les romans de la période romantique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lou Béliard, doctorante et membre du laboratoire Littéart, qui travaille sur ce sujet. Alors bonjour Lou.
Salut.
Et alors, on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ta thèse, du contexte de ta thèse?
Alors du coup, bon, comme tu l'as dit, moi, ma spécialité, c'est d'une part l'étude de la littérature du 19e siècle et d'autre, les études de genre. Donc je vais peut-être prendre le temps un peu d'expliquer un petit peu ce que c'est, parce que bon, c'est une notion qui est beaucoup... de plus en plus connu, utilisé, mais souvent les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire concrètement. Surtout que bon, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup récupéré pour critiquer l'université, notamment de la part d'une certaine frange de la politique française. Donc les études de genre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça va être toutes les études qui se rapportent au genre, à la sexualité, au comportement sexuel et de genre en général. Donc c'est un champ d'études pluridisciplinaire. Donc, qui va aussi bien toucher les sciences dures, la sociologie et les arts, donc, comme moi. Et donc on va se retrouver, quand on parle des études de genre, à parler de choses extrêmement variées, parce qu'en français, on a tendance à appeler études de genre, ce qu'en anglais, on va appeler gender studies, mais aussi gay studies, trans studies, asexual studies, enfin vraiment tous ces sujets en rapport avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre, en fait, vont avoir leur champ d'études précis. Et en fait, en France, bon, comme on est souvent un petit peu en retard par rapport à ces nouvelles études, alors que bon, elles viennent quand même à la base de Michel Foucault et donc d'université française, on a un peu regroupé tout ça sous un terme parapluie qui est les études de genre. Mmh. Et donc, en études de genre, on va avoir des sujets extrêmement variés. Ça peut être, en sciences dures, l'étude de l'homosexualité chez les toucans. Ça peut être de la sociologie, bon, comme on peut s'imaginer, sur, je sais pas, les milieux militants trans, par exemple. Ou ça peut être, en sciences, on va dire, douces. En histoire, par exemple, ça peut être l'homosexualité chez les Vikings. Et en littérature, donc, là on en arrive à moi, ça peut être l'étude d'une certaine représentation, d'une sexualité qui n'est pas la sexualité classique. Ça peut être l'étude des représentations de l'homosexualité, de la transidentité ou du genre de manière générale. Ça peut aussi être des études féministes sur la représentation féminine. Et donc on en arrive à mon sujet qui se range dans les asexual studies. Les asexual studies, ça s'intéresse aux personnages ou aux personnes, si on sort un peu de la littérature, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de sexualité, et donc les personnes qu'on appelle modernement asexuelles. Alors évidemment, c'est un terme anachronique pour parler du 19e siècle, mais moi c'est mon sujet, et faut savoir que c'est un peu une première en France de faire des asexual studies. C'est quelque chose qui existe un petit peu aux États-Unis.
Tu veux dire dans le champ de la littérature ou...
Non, de manière générale, ma thèse, c'est la première thèse française qui se concentre sur la sexualité et les asexuels.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc c'est les asexuels, les personnages asexuels dans les romans du romantique. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cette période de...
Alors, si on remonte vraiment à l'origine, en fait, quand j'étais en master, j'ai fait un mémoire sur Les Misérables de Victor Hugo, donc grand roman romantique, peut-être le plus connu. Et j'ai déjà travaillé en fait sur les gender studies, mais plutôt par rapport à l'homosexualité. Et en fait, en m'intéressant à la représentation du genre et de la sexualité chez Victor Hugo, je me suis rendu compte d'une chose qui est que chez Hugo, les personnages, notamment les personnages masculins, sont presque tous ce qu'on pourrait appeler de manière moderne des asexuels. Donc ils n'ont pas de désir, c'est explicité par le texte. Et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue, ça pose quand même question, quoi. Cet immense roman qui est quand même un jalon de la culture française, même mondiale, avec voilà, que des personnages masculins, que ce soit Jean Valjean, Javert, enfin vraiment tous ceux que les gens connaissent, quoi. Et même des personnages plus obscurs qui n'ont pas de sexualité, qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas de rapport ni avec les femmes ni avec les hommes. Enfin, donc voilà, ça m'a posé question. J'ai creusé un petit peu et en fait, j'ai plus ou moins découvert que le début du 19e était une période hyper propice à l'étude des personnages asexuels parce que politiquement, c'est une période hyper mouvementée. Où il y a à la fois un détachement de soi, parce que bon, on parle quand même d'une période juste après la Révolution, donc il y a cette idée d'abnégation qui peut amener un certain rejet des sentiments individuels, etc. Il y a un énorme retour post-révolution de la religion, qui fait que après les Lumières, bon voilà, si vous connaissez un peu la littérature, vous avez peut-être en tête Voltaire, tout ça, anticléricalisme, on veut brûler les églises, ça c'est plutôt les révolutionnaires que Voltaire, mais et surtout la chasteté, la virginité, c'est une aberration, c'est contre nature. Et début 19e, on a un retour avec des auteurs comme Chateaubriand, comme Lamartine, qui sont des auteurs profondément croyants, qui veulent faire un nouveau christianisme. Un peu plus humaniste, mais quand même du christianisme. Et en fait, il va y avoir un gros retour, avec le retour de l'Église dans la société, il va y avoir un retour de la valorisation, de la chasteté. Et donc voilà, donc c'est très intéressant. Et ensuite, troisième chose, ça c'est Michel Foucault qui a beaucoup travaillé là-dessus dans son histoire de la sexualité. En fait, il montre que l'obsession moderne qu'on a pour la sexualité, elle commence au 19e siècle. Donc vraiment fin 19e, fin 18e, début 19e. Donc vraiment cette période-là, c'est une période très charnière où en fait on commence à cataloguer tous les comportements sexuels, à s'intéresser de très près à l'homosexualité, à ce qu'on appelle à l'époque la bestialité, à l'onanisme. Enfin, tout ce qui n'est pas vraiment le coït traditionnel va être catalogué, va être vraiment disséqué. Les médecins vont s'y intéresser de très près. Il va y avoir toute une question de cadre légal. Donc il y a une littérature, pas au sens littérature, mais il y a des écrits autour de la sexualité qui vont vraiment se multiplier. Et donc, c'est très intéressant, en fait, de s'intéresser à toutes les formes de sexualité, entre guillemets, déviantes à cette époque-là. Donc, toutes ces raisons font que je me suis dit que... Alors, ça peut paraître un petit peu étrange de commencer comme ça, les asexuels se disent en France, avec le 19e siècle, avec quelque chose de très précis comme ça. Mais en fait, je pense que c'est tout à fait pertinent vis-à-vis du contexte.
La question que j'aimerais poser, ça serait est-ce que ces personnages, est-ce qu'on les analyse déjà en tant que tels à l'époque? Est-ce que les gens écrivent, les critiques de littérature, est-ce qu'ils font mention de ces personnages asexuels, du coup, pour parler du sujet?
Alors oui, bon, ça c'est quelque chose que les gens ont souvent du mal à se représenter. Enfin, quand je parle de mon sujet de thèse, la première réaction c'est souvent « Ah mais ça existe, les personnages asexuels comme ça ». Alors évidemment, on n'utilise pas le terme « asexualité », qui à la base est un terme plutôt biologique, qui apparaît vers le XVIIe siècle, et qui va être vraiment utilisé de manière courante que très modernement, c'est à partir des années 80, 90... 1990, donc vraiment au 19e siècle, on ne va pas du tout utiliser ce terme. Mais de la même manière que le terme homosexualité date de 1860 et qu'on peut quand même parler d'homosexualité avant, on peut quand même en faire l'étude. Et oui, il y a bien un discours sur cette absence de désir, que ce soit de la part des auteurs qui vont vraiment, alors de manière plus ou moins explicite, des fois il faut un peu lire entre les lignes, des fois c'est extrêmement clair. Donc les auteurs vont vraiment expliciter que tel personnage n'a pas de désir, voire des fois vraiment creuser sur la psychologie du personnage pour savoir d'où ça vient. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et oui, forcément, dans les critiques, ça s'en ressent. Je pense notamment à George Sand qui a écrit un roman qui s'appelle Lélia, dont l'héroïne est complètement asexuelle et c'est très problématisé. Et en fait, la critique de l'époque s'est enflammée sur ce roman, a trouvé que le personnage était monstrueux. Enfin, vraiment, c'est avec des termes... C'est assez drôle à lire avec du recul, parce que vraiment, la critique est essentiellement masculine et conservatrice. Et vraiment, il y a un effroi de cette femme indépendante qui refuse le sexe avec les hommes, qui est très marqué. Donc c'est quand même un sujet, même si évidemment il porte pas le nom d'asexualité, quoi.
D'accord. Et donc, et tu disais du coup que en réalité ce sujet de la sexualité, donc, enfin du coup ces personnages, notamment par ce retour à la chasteté, tu vois, est-ce que il y a deux manières d'en parler, tu disais. C'est donc ça va juste soit être pour les critiquer ou pour idéaliser cette figure.
Ouais.
C'est ça.
Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est de confronter en fait le fait qu'il y a plusieurs regards sur ces personnages. Donc, on va avoir d'un côté une vision plus, je vais dire, romantique, classique, donc très idéaliste, avec notamment Victor Hugo. Voilà, donc il va montrer des personnages sans sexualité, mais de manière extrêmement idéalisée, qui vont être des figures de l'abnégation, avec forcément un imaginaire très religieux derrière. Et de l'autre, on va avoir des auteurs comme notamment Balzac, qui est vraiment un pilier assez central dans ma thèse, qui va en fait pathologiser le célibat. Balzac déteste les célibataires. Vraiment, il se défend d'être célibatérophobe. C'est vraiment un terme qu'il utilise. Mais il déteste le célibat. Il trouve que les célibataires devraient payer un impôt spécial parce qu'ils sont inactifs pour la société. Enfin, ça va vraiment, c'est une haine qui va vraiment très loin. Et notamment, il y a une figure qui existe encore aujourd'hui et qui a été plus ou moins popularisée par Balzac, c'est la figure de la vieille fille. Donc vraiment, cette femme d'âge mûr, célibataire, inactive sexuellement, et qui chez Balzac est plutôt asexuelle, donc qui n'a pas de désir et que c'est justement le problème. Et pour lui, là on entre dans quelque chose de vraiment très politique. Pour lui, le crime du célibat, c'est l'incapacité à faire famille et l'incapacité à engendrer, surtout pour les femmes. Mmh. Donc on rentre aussi dans tout ce qui est politique nataliste. Oui. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement politique dans le fait d'avoir une sexualité ou non. Alors évidemment, dans le fait d'avoir une sexualité normée ou non, etc. Mais qu'en fait, le retrait du système, se retirer du système sexuel, de la sexu society, comme disent les Américains, donc l'ensemble de normes qui fait dans la société que c'est quasi impossible de ne pas avoir de sexualité, c'est un acte assez révolutionnaire qui va vraiment faire dresser les cheveux sur la tête à certains auteurs qui vont se dire que c'est la fin de la société si les gens commencent à être célibataires. Et à l'inverse, bon voilà, chez Victor Hugo, c'est pas un hasard s'il y a énormément de... Enfin, presque tous les personnages de révolutionnaires chez Hugo sont asexuels, parce qu'il y a aussi ce côté abnégation, libération de tout un ensemble de normes, qui fait qu'en fait la sexualité devient un acte presque révolutionnaire. Donc voilà. Et en même temps, voilà, t'as dit que j'avais deux visions, c'est un peu plus compliqué que ça, j'ai aussi une troisième partie, une troisième catégorie de personnages, qui va être notamment avec Lélia dont j'ai parlé, avec une vision beaucoup plus contrastée, qui va montrer qu'en fait, notamment pour les femmes, c'est impossible de se retirer du système sexuel, qui à l'époque en plus est un système, on va le dire, violent, très patriarcal, avec le mariage, etc. Donc voilà, il y a aussi cette vision du la sexualité, c'est pas une fin en soi, mais pour certaines femmes, c'est peut-être le seul moyen d'échapper à tout un ensemble de violences. Mais par contre, faut pas se voiler la face. À moins d'aller dans un couvent, c'est impossible d'échapper à la sexualité imposée dans nos sociétés. Donc on a aussi des réflexions extrêmement modernes comme ça. L'Iliade, George Sand, c'est des réflexions féministes extrêmement surprenantes. Avec beaucoup de finesse, et elle va très loin dans son raisonnement, quoi.
Mais du coup, moi ce que je comprends pas, c'est est-ce que c'est déjà un thème réellement dont les gens parlent, de la sexualité des personnages, est-ce que les gens en parlent réellement, ou c'est un regard a posteriori qui permet de qui fait voir ces éléments?
Eh ben, un petit peu les deux. Par exemple, Hugo, c'est vrai que ça fait un peu, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, la sexualité des personnages de Hugo. C'est que on a énormément écrit, c'est peut-être le roman sur lequel on a plus écrit en France, et on a au fond très peu parlé de cette sexualité des personnages. Alors il y a des gens qui ont essayé d'imaginer des potentielles sexualités cachées chez Hugo, parce que vraiment il y a une incompréhension de la critique face à l'inactivité sexuelle des personnages, mais du coup on en a très peu parlé. C'est assez récemment qu'on s'est dit, bon, quand même c'est dingue, pourquoi tous ces personnages n'ont pas de sexualité. Et à l'inverse, on va avoir comme je disais, avec Balzac, on va avoir des romans où la sexualité est, la sexualité cette fois, la plus loin, sexualité, est très présente, notamment chez Balzac. Je sais pas si t'as un peu à l'esprit l'ambiance Balzac, mais très souvent chez Balzac, le désir est au centre des histoires. L'enjeu, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de désir. On a souvent, on a les images des jeunes hommes chez Balzac qui globalement ont envie de pécho pendant tout le roman, finissent ou non par y arriver, mais le désir est toujours là. Le sexe et le désir est un vrai sujet. Et en l'occurrence, la figure de la vieille fille va devenir quelque chose qui, même à l'époque, va être complètement commenté. Donc, voilà.
Un vrai sujet de société.
Pourquoi tout le monde est étonné? Pourquoi m'inventer des problèmes? Je suis pourtant en bonne santé. Je ne crois pas que ça vous concerne. Je me sens plus proche des pandas que des lapins. Je suis indépendante et tout le monde n'aime pas le
sexe.
Non, tout le monde n'aime pas le
sexe.
N'est pas si clair, mon présent n'est pas si pire. J'ai l'impression d'être un alien quand j'admets ne pas avoir la même façon d'aimer. Et non, j'ai pas besoin que tu veuilles me guérir. J'suis pas malade, j'suis mal à l'aise quand tu me regardes. J'suis pas la seule dans le monde, dans les nombreux normaux et heureux, juste sous tes yeux. Je me sens plus proche des pandas que des lapins. Je suis indépendante et tout le monde n'aime pas le
sexe.
Non, tout le monde n'aime pas le
sexe.
L'amour existe, l'amour sans sexe aussi. Je ne veux plus me forcer. Si le sexe sans amour existe, l'amour sans sexe aussi. Je ne veux plus me forcer.
Ça
ne
me manque pas. J'ai juste pas besoin de ça.
Bonjour à toutes et à tous, on est bien dans Libido CND. Aujourd'hui on parle de romantisme, on parle de littérature et de sexualité dans, dans les romans du 19e siècle. Et donc pour en parler, je suis avec Lou. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple d'un personnage qui est important dans ta recherche hein? Et voilà, essayer de nous contextualiser un peu dans l'histoire de son roman.
Alors, il y a un personnage dont j'aimerais bien parler qui vient des Misérables. En général, les gens connaissent un petit peu les Misérables. Il y a eu énormément d'adaptations cinématographiques, en bande dessinée, etc. Mais le roman est extrêmement long, il fait 2000 pages. Et il y a des personnages qui sont assez peu connus du grand public. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Enjolras. Qui est en fait dans la deuxième partie du roman le chef de l'insurrection étudiante qui a lieu et donc lui c'est vraiment le type parfait de l'idéalisation de la sexualité dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un personnage euh, qui a qui est extrêmement charismatique et extrêmement positif. Il y a une grosse insistance sur sa beauté, sur sa force, sur son charisme. C'est vraiment le chef révolutionnaire qui fait des discours sur l'eau de la barricade, qui se bat. Il y a un grand imaginaire lié à tous les héros de la Grèce antique, etc. Donc on a vraiment cette image de jeune homme presque un très angélique, presque un demi-dieu, etc. Et en fait, dès son introduction dans le roman, Hugo est extrêmement clair. Il va dire que ce personnage n'a pas de sexualité, n'a pas de désir.
Okay.
Que voilà, c'est comme ça. Il y a un sous-texte homosexuel avec ce personnage, mais il reste complètement chaste. Mm-hmm. Et en fait, oui, Hugo énonce clairement que les femmes essaient de l'approcher, mais que... vraiment il les repousse très durement et que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas parce que son amante c'est la République, sachant qu'on est dans une royauté à ce moment-là, donc en fait son amante c'est la Révolution, c'est la lutte pour une société meilleure. Donc c'est vraiment une figure de cette abnégation qui est pas une figure manichéenne non plus, parce qu'il y a aussi une critique en fait à travers lui d'une certaine posture révolutionnaire qui peut être un peu trop flexible. Alors Hugo est clairement du côté des révolutionnaires, ça se voit à chaque fois qu'il décrit ce personnage, qu'il l'admire, qu'il le magnifie, etc. Mais en même temps, il va montrer qu'il y a un certain manque d'humanité qui va se dégager, et ce manque d'humanité, nécessairement, il est aussi lié à l'absence de sexualité. Mmh. Donc il y a aussi cet imaginaire de, en fait, si tu n'as pas d'activité sexuelle quelque part, t'as un peu une statue, un robot, enfin, il y a quelque chose un peu dans cet imaginaire-là, quoi.
Mmh. Ok, mais donc pourquoi est-ce que il le fait asexuel pour le rendre marié de la République, si je comprends bien,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
C'est vraiment il réserve. Bon, oui, on voit peut-être pas, il réserve sa sexualité à la République, ça serait peut-être un contresens de dire ça, si.
Oui, enfin on va dire, c'est plutôt que il y a un imaginaire qui date pas du tout de Hugo, qui date de la nuit des temps, que en fait le sexe, la sexualité, c'est une énergie. Mmh. Et vraiment, oui. C'est pas pour rien que depuis la Grèce antique, les sportifs, il y avait des sportifs pendant la Grèce antique qui faisaient vœu de chasteté parce qu'ils pensaient que ça leur enlevait leur puissance. Donc, mmh. Y a tout un imaginaire comme ça que, en fait, la sexualité, c'est une puissance. Alors, une puissance nécessaire, dans les cultures archaïques, complètement nécessaire pour l'engendrement, pour la famille, etc. Mais c'est quand même une perte de puissance quelque part, et donc quelqu'un qui s'abstient aurait une force surhumaine, et vraiment chez Hugo on a complètement ça avec la figure de Jean Valjean qui est complètement ascétique, qui est complètement chaste, et en fait c'est un surhomme, vraiment c'est un peu contre-intuitif d'un point de vue moderne parce qu'on a un peu le lien entre virilité et sexualité active, alors que là vraiment c'est complètement l'inverse. Il va avoir une virilité complètement augmentée par le fait que justement il est chaste, là où un personnage un peu trop porté sur la chose serait plutôt affaibli et malade. Enfin, il y a aussi tout un imaginaire autour des maladies vénériennes, évidemment, quoi. Mais on a plutôt l'image du libertin qui va être affaibli, qui va être diminué, en fait. Alors que, on a aussi cette image du prêtre tout puissant. C'est un imaginaire qui existe au XIXe siècle, quoi.
Oui, mais du coup, j'ai un peu l'impression de retrouver cette image un peu du... tu parlais du prêtre, enfin, mais voilà, peut-être au sens où la sexualité, c'est quelque chose de trop bas, c'est quelque chose de trop bas par rapport aux idées, et comme une relation platonique, mais voilà, les idées sont plus importantes, et le fait que, comme les prêtres ne sont que tournés vers Dieu et rejettent la chair, et les personnages de Hugo, en fait... représente un peu ce même...
Oui, tout à fait. Il y a vraiment ce côté... Alors, la sexualité serait une souillure quelque part. Mmh. Et en fait, ça va même plus loin que ça. Et là, on arrive un peu au cœur de ma thèse. En fait, c'est peut-être pas tant la sexualité que la sexualité avec les femmes qui va être une souillure. Mmh. Donc, alors, ça peut aller soit dans un imaginaire misogyne qui fait que c'est la femme sensuelle, etc. C'est une souillure en elle-même. Et que ces personnages de révolutionnaires qui refusent tout contact avec elles vont rester purs, vont rester il y a aussi une idée de garder en vue constamment l'objectif, etc. Mmh. Enfin, de vraiment se donner à 100% pour une cause. Et en même temps, en s'éloignant de la sexualité avec les femmes, on s'éloigne aussi d'une certaine forme de violence. Parce que chez Hugo, la sexualité hétéro, elle est souvent violente, parce qu'il y a quand même une grosse représentation, notamment de la prostitution, des violences conjugales, des violences sur les enfants. Quand on réfléchit, en fait, dans Les Misérables, tous les personnages masculins qui ont une sexualité, on va dire, normale, donc que ce soit une sexualité de père de famille, une sexualité de bourgeois qui va fréquenter des prostituées, etc., tous ces personnages-là, ils sont caractérisés aussi par une violence envers les femmes, en fait. Mmh. Et donc, ces personnages-là, en s'extrayant de cette sexualité, qui à l'époque est quand même une sexualité, bon, on va le dire, hein, violente, basée sur des normes extrêmement patriarcales, etc., eh ben, ils s'extraient aussi de cette violence, en fait. Notamment Jean Valjean, voilà, qui va être la figure asexuelle, qui va sauver la prostituée, qui va recueillir l'enfant battu, qui va, enfin, il y a quand même cet imaginaire de refaire famille un peu autrement, en dehors des normes sexuelles qui sont aussi, à l'époque, des normes patriarcales, et c'est en soi, encore une fois, assez révolutionnaire, en fait. Mmh.
Ça veut dire que, et donc, Victor Hugo, lui, tu penses que lui-même, il avait cette... Il critiquait fortement déjà cette sexualité violente et ce rapport de domination.
Après, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui est vraiment clair dans la tête de l'auteur ou pas. Après, on sait que Victor Hugo était un franc attaquant de la prostitution. Enfin, c'était vraiment un abolitionniste pur qui vraiment défendait la fermeture des bordels napoléoniens et tout. Il était vraiment très engagé dans cette lutte-là. Donc forcément, en fait, il avait et contrairement à toute une frange plus conservatrice de la population qui allait être contre la prostitution parce que c'était de la dépravation, etc. Lui, il disait vraiment que c'était mal parce que c'était la misère extrême de la femme il avait en tête la violence sur les femmes, en fait. Donc c'est pas complètement anachronique, on va dire, de voir chez lui une conscience de la violence de la sexualité patriarcale. Après, ça veut pas dire que cette sexualité patriarcale, il l'a pas eue lui-même. Victor Hugo, ça a été un père de famille comme les autres. C'était pas du tout un saint dans sa vie de tous les jours. Après, en littérature, on a tendance à... Enfin, ça dépend des mouvements, mais on a tendance à éviter de trop mélanger la vie d'un auteur et son œuvre. Et donc voilà. Mais oui, ça fait sens.
Ok, donc pour essayer de... Est-ce qu'on peut dire que de manière générale, dans l'œuvre littéraire de Victor Hugo, les personnages asexués sont des personnages qui réservent leur énergie sexuelle à des dessins plus nobles, à des idées?
Va souvent avoir ça. Après, ça peut aussi être plus compliqué que ça. Notamment, on va avoir Javert, par exemple.
Alors,
Javert dans Les Misérables, c'est le policier qui va courir après Jean Valjean pendant tout le roman. Javert, c'est un personnage qui me fascine parce que pour moi c'est un fasciste avant l'heure. C'est vraiment cette figure de personnage qui va se mettre dans une idéologie extrêmement, alors que lui-même vient d'un milieu miséreux, qui va se mettre dans une idéologie extrêmement rigide de haine envers la misère, etc., et qui donc va se retrouver à être un vrai chien de garde de la société, etc. Et ce personnage n'a pas de sexualité non plus, et donc on va avoir en fait cette image d'abnégation, mais aussi pour la mauvaise cause.
Ah oui, donc
c'est pas si manichéen que ça, en fait.
Mais au sens abnégation, c'est-à-dire qu'il refuse d'avoir des relations sexuelles pour être à fond dans son objectif réprimer les pauvres, quoi.
Ouais.
Ok.
C'est ça.
Ok, donc on a.
C'est pas si simple que ça, quoi. C'est...
Mm-hmm. Oui. Et donc voilà, on a ce personnage idéalisé de, enfin, qui sont. On a cet archétype de personnage, et au niveau de la critique, du coup, est-ce qu'il y a un personnage spécifique qui te vient en tête lorsqu'on parle de la critique, enfin voilà, le personnage asexuel qui a été écrit pour en décrire les travers?
Donc là on va revenir vers Balzac, du coup. Il y a un roman de Balzac qui est assez impressionnant là-dessus, qui s'appelle La Cousine Bête, qui met en scène donc le personnage éponyme, donc la Cousine Bête, qui est une vieille fille. C'est un roman absolument extraordinaire, vraiment je le conseille si vous n'avez jamais lu Balzac, c'est absolument savoureux. C'est aussi extrêmement ambigu, et moi c'est ce qui me plaît, cette ambiguïté aussi, c'est que alors Balzac va décrire comment une vieille fille va ruiner sa famille, en fait, parce que c'est une vieille fille, donc nécessairement elle est mauvaise, parce que elle est jalouse, forcément une vieille fille, c'est aussi une fille laide, c'est une fille qui ne sait pas attirer les hommes, qui n'a même pas envie d'attirer les hommes, et c'est peut-être là son plus grand crime. Et donc on va avoir cette description qui flirte beaucoup avec l'imaginaire de la sorcière, en fait, qui est vraiment cette femme qui va être dans cette famille et qui, en fait, va décider, pour des raisons plus ou moins obscures, de se venger de cette famille trop heureuse dans laquelle elle est et où elle est la seule à ne pas être mariée, etc. Et donc elle va faire alliance avec son opposé total, donc avec une courtisane, donc une femme extrêmement belle, extrêmement sensuelle, qui... une prostituée de luxe, hein, on va dire les termes, qui fréquente des hommes riches qui leur extorque de l'argent. Donc ces deux femmes qui sont les deux figures un peu démoniaques qui sont dans des figures assez éloignées l'une de l'autre, mais qui, je pense dans la tête de Balzac, représentent peut-être deux déchéances féminines différentes, vont s'allier dans un espèce de couple infernal très saphique, avec vraiment des sous-entendus lesbiens assez dingues pour l'époque, et vont détruire cette famille avec d'un côté le pouvoir de la sexualité féminine déchaînée, et de l'autre cette femme aigrie qui ne peut pas être corrompue par l'amour ou par quoi que ce soit, parce qu'elle est, en dehors de tout ça. Et c'est assez rigolo parce que d'un côté Balzac clairement nous fait ressentir vraiment beaucoup de peine pour cette famille qui se fait détruire par ces femmes, et en même temps on sent vraiment sa jubilation devant ces personnages machiavéliques, notamment la cousine bête qui est extrêmement charismatique en fait. Alors à l'époque peut-être moins, mais c'est vraiment un roman, en le découvrant je me suis dit mais modernement on dirait presque un modèle, quoi. Elle est indépendante. Alors, certes, elle est méchante, mais c'est une anti-héroïne extrêmement charismatique. Même dans ses descriptions, elle a un côté vraiment sorcière, effrayant. Elle pique des colères. Et en même temps, elle a cette relation avec cette amie qui est extrêmement moderne. Enfin, c'est assez, assez réjouissant. Et donc, il y a un peu cette ambiguïté avec d'un côté Balzac qui montre, regardez, ces femmes célibataires, c'est des parasites. Elles vont détruire la famille et la société, le mariage. Elles ne font pas d'enfants. C'est terrible. Et de l'autre côté, il y a aussi une liberté, en fait, de ces femmes qui, en fait, ne sont pas assujetties, quoi. Parce que dans le roman, alors certes, on a des personnages féminins extrêmement positifs qui vont être des figures de saintes, mais qui sont des femmes mariées. Mais on va pas se mentir, c'est aussi des personnages profondément ennuyeux, qui restent à leur place, etc. Et là, on va avoir cette espèce de féminin complètement... qui n'a pas de limite... Et c'est assez ambigu et c'est assez intéressant. Ouais.
Mmh. Mais bon, je vais peut-être sortir un tout petit peu du sujet, mais ouais. Est-ce que chez Balzac, est-ce qu'on trouve des femmes indépendantes décrites de manière positive?
Ouais, il y en a aussi, notamment tout ce qui va être les femmes artistes. Il va y avoir cette image de la femme, mais par contre, elles sont nécessairement malheureuses.
Ah oui.
Il y a vraiment ce truc où, notamment, il y a un personnage qui s'appelle... j'ai oublié son prénom.
C'est pas très grave.
Je sais, mais c'est pas grave. Bon, elle apparaît dans le roman Béatrix. Et en fait, c'est un personnage de femme artiste, extrêmement charismatique. Donc, encore une fois, qui fait très moderne, quoi. C'est vraiment la femme artiste qui passe ses journées dans sa chambre à écrire en fumant sa chicha tranquillement. C'est assez réjouissant comme portrait. Et par contre, elle est malheureuse parce que à chaque fois qu'elle se retrouve dans une relation avec un homme, l'homme essaie de la réduire à un objet sexuel et en tout cas à un objet non intellectuel, et elle en souffre, et donc ça marche pas, et donc elle finit dans un couvent. Donc c'est quand même... le personnage est très positif, on sent que Balzac la respecte, d'ailleurs le personnage est inspiré de George Sand que Balzac fréquentait, mais voilà, il y a quand même ce... En fait, en tout cas, la société 19e que Balzac décrit ne permet pas à ces femmes d'être heureuses ou d'être... de prendre leur place, en fait.
À aucun moment, il va décrire une femme qui a une relation d'égal à égal avec un homme qui peut se complaire dans une relation sexuelle, mais d'égal à égal, où il n'y a pas de rapport de domination. Et... Ben, on et peut, elle peut garder sa liberté.
On peut avoir des relations heureuses. Mais bon, voilà, on sent quand même ce fond de misogynie chez Balzac qui fait que voilà, dès qu'une femme, aussi brillante soit-elle, va se plaire dans une relation avec un homme, elle va tomber dans une émotivité extrême, elle va se faire belle, elle va avoir envie de séduire par-dessus tout. C'est quand même, on sent que c'est quand même compliqué pour lui d'imaginer une femme complètement indépendante qui a une relation quoi, hétérosexuelle. Quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Ouais. Il y a d'autres auteurs, je pense à George Sand par exemple, qui a essayé en fait, de creuser ce thème de la femme, parce que les héroïnes sandiennes sont toujours un petit peu, ça dépend dans quelle mesure, mais un petit peu autobiographique. Et on sent que George Sand, elle a vraiment essayé de creuser ce thème de la femme, que ce soit la femme artiste, la femme intellectuelle, sous toutes ses formes, qui va réussir, ou non, des fois non, à avoir une relation avec un homme qui va justement l'élever. Ça, c'est aussi le fantasme de l'amour romantique. C'est un amour, alors des fois complètement désincarné, et là, on en revient au sujet de la sexualité, mais qui arrive à être égalitaire. Donc voilà, tout n'est pas perdu pour les héroïnes du 19e, mais chez Balzac, c'est quand même un peu compliqué.
Oui, non, mais du coup, on va laisser Balzac dans son trou. Mais donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler, tu nous parlais de cette troisième voie. Donc, il y a l'héros ou l'héroïne asexuée de Victor Hugo qui se bat pour la République ou pour le fascisme que c'est. premier archétype, deuxième archétype, Balzac qui critique fortement ces personnages inutiles et qui ne peuvent être que malheureux parce que sans sexualité, on ne peut être que malheureux selon Balzac, si je comprends bien.
Ouais.
Et donc, on peut peut-être essayer de parler d'un personnage de George Sand qui essaie d'explorer cette troisième voie.
George Sand, en fait, c'est quand même assez pessimiste. Moi, il y a deux romans de George Sand, surtout dans mon corpus, c'est Rose et Blanche et Lélia, dont j'ai déjà parlé. Et dans les deux cas, on a des femmes. Dans Rose et Blanche, c'est une femme assez jeune. Dans Lélia, plutôt une femme qui a déjà eu des expériences amoureuses. Et ce sont des femmes qui sont complètement capables d'aimer, mais qui, par contre, en fait, se retrouvent face à un mur pour ce qui est du sexe, quoi. Qui, en fait, vont se rendre compte qu'elles ne supportent pas la position dans laquelle la sexualité avec un homme va les mettre, en fait. Et notamment, c'est souvent des femmes qui ont du caractère, qui ont des idées, qui sont intellectuelles, etc. Et donc, c'est des femmes qui vont ne pas supporter, en fait, l'assujettissement qui est malheureusement induit dans la sexualité hétérosexuelle traditionnelle du 19e siècle, quoi. Donc, c'est assez pessimiste. Et en même temps, le postulat que George Sand fait, et d'ailleurs, elle est un peu connue comme une figure féministe, et en même temps, par exemple, elle disait que ça servait à rien de donner le droit de vote aux femmes, parce que de toute façon, dans l'état actuel des choses, elles étaient incapables d'être vraiment, de penser vraiment par elles-mêmes. Donc, en fait, avec Sand, on a vraiment cette idée que peut-être dans un siècle, ça sera possible d'avoir une relation égalitaire avec du sexe, sans sexe, peu importe, avec les hommes. Mais pour l'instant, ça, c'est compliqué. Et pour les esprits trop forts, comme Rose dans Rose et Blanche ou Lélia, malheureusement, on se retrouve face à une impasse. Et donc Rose finit dans un couvent et finit par se dire qu'elle est plus heureuse comme ça, parce qu'avec les hommes, décidément, ça ne fonctionne pas. Et Lélia meurt, malheureusement, comme beaucoup d'héroïnes romantiques. C'est en même temps, elle est peut-être plus optimiste que Balzac, au sens où pour elle, c'est clairement pas la non-sexualité le problème. Le problème, c'est le désir masculin et l'objectification qu'il contient au 19e siècle. Mais par contre, elle est très consciente que dans l'état actuel des choses, une femme qui refuse la sexualité va pas réussir à être heureuse. Après, elle n'a pas écrit que ces romans-là, elle a aussi écrit des romans où des femmes arrivent à avoir une relation et sexuelle et égalitaire. Et d'ailleurs, George Sand, même dans sa vie, a eu quand même énormément... je mélange peut-être un peu trop l'œuvre et l'artiste pour le coup, mais a eu quand même dans sa vie énormément d'amants dont on sait que c'était des relations extrêmement satisfaisantes intellectuellement. Je pense que tout n'est pas perdu, mais en tout cas pour les héroïnes de mon corpus, on est quand même sur un certain pessimisme.
On est sur un pessimisme et du coup, on est, si je comprends bien, on est aussi sur une asexualité choisie, du coup, entre guillemets, mais par défaut. C'est, enfin, la rose, elle ne choisit pas d'être asexuelle parce qu'elle trouve ça bien. Mm. Elle le choisit, entre guillemets, parce qu'elle n'aime pas faire l'amour, en fait.
Ouais. Ouais, en fait, on se rapproche d'une notion qui est une notion du XXe siècle, notamment développée par Monique Wittig, qui s'appelle le lesbianisme politique, qui est en fait le constat que dans une société patriarcale, le lesbianisme, ça peut être une solution pour justement s'extraire en fait de ces rapports de domination. Et là, en fait, on est sur quelque chose de très proche. En fait, je ne peux pas, dans l'état actuel des choses, avoir de relations saines avec les hommes, donc je préfère, enfin c'est même pas une question de préférence, donc je ne peux pas en avoir parce que justement j'ai une persona trop forte qui refuse en fait cette soumission, cette objectification, et donc je m'extrais de la sexualité, quoi. Donc c'est assez moderne, ça pose plein de questions et ouais, c'est assez fascinant.
Mmh. Mais du coup, concernant cette histoire de d'asexualité choisie, est-ce qu'il y a des personnages dans ton corpus qui, enfin, du coup, enfin, ou du moins chez Georges Sand, qui affirme en fait cette asexualité, en étant sans voir forcément les raisons pour lesquelles elles n'ont pas envie de faire de elles n'ont pas envie d'être en relation sexuelle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais... Ben, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que là, bon, voilà, je fais le compte-rendu de ce que moi, j'ai compris en analysant l'œuvre. Mais autant chez Lélia, c'est quand même quelque chose d'assez affiché, qu'elle refuse l'objectification et que donc elle refuse la sexualité avec les hommes. Autant chez Rose, qui est un personnage de jeune fille, c'est beaucoup plus instinctif, en fait. C'est vraiment... En fait, elle se rend compte qu'elle n'en a pas envie. Et en fait, si on analyse le roman dans son entièreté, on se rend compte qu'effectivement, il y a une représentation de la violence masculine omniprésente autour d'elle, qui fait que, ben voilà, c'est quand même, enfin, c'est clairement lié. Mais sinon, voilà, à la première lecture comme ça, on a l'impression que c'est naturel, enfin que c'est une nature en fait, une orientation sexuelle, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, non, mais peut-être que la question en fait que je voulais poser, c'était plutôt, tu parlais de violence, notamment dans les relations sexuelles, surtout d'homme à femme. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que Rose, est-ce qu'elle devient asexuelle et non pas lesbienne pour avoir une sexualité, je sais pas comment dire, mais positive
Mais parce que ce sont des femmes qui aiment les hommes. Ce sont des femmes qui sont amoureuses. Dans les deux cas, ce sont des femmes
qui sont coincées dans l'hétérosexualité.
Voilà. C'est vraiment ça. Il y a un peu ça. Et notamment dans Lélia, c'est très parlant. En fait, Lélia est amoureuse d'un poète qui s'appelle Stenio. Et en fait, Stenio, c'est l'archétype de l'amant romantique idéalisé, alors de loin. Mais en fait, dans les faits, elle s'en rend compte que c'est impossible de lui résister. Et qu'en fait, bon, pour dire ça en des termes modernes, Stenio, c'est surtout un gros forceur qui ne va pas du tout accepter qu'une femme lui dise « je t'aime, mais je ne peux pas coucher avec toi ». Donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est aussi pessimiste. Et qu'en fait, ces deux femmes, elles sont coincées, quoi. Enfin, elles sont complètement capables d'aimer les hommes. Et d'ailleurs, Lélia est amoureuse à plusieurs reprises. Elle parle d'expériences passées, etc. Donc ouais, il y a un peu cette fatalité plutôt pessimiste. Ouais.
Et est-ce que tu dirais qu'elle vit mal, du coup, cette... Enfin, j'ai l'impression que tu avais, du coup, un avis contrasté sur son asexualité. Tu dis qu'elle finit très mal... Et oui, c'est quand même une asexualité qui fonctionne pas, c'est ça?
Enfin, disons que j'ai envie de dire que la moitié du travail est fait, au sens où on a quand même un personnage de femme puissante qui affirme, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle ne se pose pas du tout en victime. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de Stenio qui arrive, elle lui dit clairement « Non, moi j'ai déjà eu des aventures, j'ai vu que c'était pas pour moi, que vraiment je... » Ça ne m'intéresse pas, je t'aime, mais je ne te donnerai pas ce que tu veux.
Oui, mais du coup, elle va en subir des conséquences négatives.
Par contre, derrière, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la fin du roman, mais elle finit quand même assassinée par un homme qui la désire, donc qui n'est pas Stenio. Donc il y a vraiment cette force du désir masculin qui va apparaître comme une force destructrice quasiment, quoi, qui révèle une peur peut-être de sang par rapport aux violences sexuelles, etc. Enfin, c'est assez... assez effrayant, on sent que c'est assez viscéral la manière dont elle écrit ce personnage, donc c'est extrêmement intéressant. Et donc c'est pour ça, ouais, c'est vraiment, pour moi c'est à cheval, parce qu'il y a vraiment ce personnage extrêmement fort et qui ne se laisse pas, en fait, à aucun moment, qui ne se laisse pas forcer, qui ne se laisse pas... on ne la convainc pas d'avoir des rapports. Enfin, elle est droit dans ses bottes, j'ai envie de dire. Et en même temps, bon, voilà, nécessairement, elle se heurte à la violence du système, qui est un système patriarcal, qui est un système misogyne et violent envers les femmes, quoi, du 19e siècle. Et donc voilà.
Mais elle, du coup, elle le vit comment ? Est-ce qu'elle se remet beaucoup en question ou elle est droit dans ses bottes, comme tu dis ?
En fait, elle raconte une remise en question, mais postérieure au roman. Antérieure au roman, pas postérieure. Antérieure au roman, où en fait, justement, pendant ses premières relations, elle était complètement perdue. Et le roman commence, l'âge de Lélia n'est pas donné, on imagine qu'elle a... 25-30 ans, qu'elle a déjà eu quelques expériences, et là, elle est très claire sur ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, et donc la remise en question, elle est là, et clairement, c'est extrêmement intéressant, parce qu'elle le raconte, elle la raconte, cette remise en question, elle montre très bien comment l'identité féminine au 19e siècle, et j'ai envie de dire malheureusement encore aujourd'hui, elle est quand même beaucoup basée sur la capacité à la désirabilité et au rapport sexuel, en fait, comme la virilité d'ailleurs. Et donc elle montre clairement à quel point c'est dur. Mais en fait, ce qui est dur, surtout dans le roman, c'est l'incompréhension des hommes, en fait.
Ok.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. Just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir du plaisir, à partir des conduites de plaisir, comme les conduites sexuelles, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité comme, si vous voulez, principe d'intelligibilité de tout notre comportement et tout notre être.
Retour dans Libido Sandy où on parle de littérature et d'asexualité. Peut-être que pour la fin on va parler de manière un peu plus philosophique, je ne sais pas, mais j'aimerais te demander ce que j'ai lu dans ton résumé de thèse, la valeur politique de la sexualité. C'est des termes qui me semblent un peu flous et peut-être qu'après tout ce qu'on vient de dire, on peut essayer de mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu entends alors derrière par ces...
Alors, par où commencer ? Donc, en fait, je pense qu'à travers tous les personnages que j'ai décrits, on voit qu'en fait, à chaque fois, c'est pas quelque chose d'individuel qui se dessine, en fait. Il y a un modèle de société derrière, que ce soit la volonté révolutionnaire, la peur de la fin du modèle familial, toutes ces choses-là, c'est des choses extrêmement globales et politiques. Et en fait, moi, je m'appuie beaucoup sur deux chercheurs qui sont Michel Foucault et Ella Brzezbiloh, qui est une chercheuse américaine, qui est la principale chercheuse qui travaille sur les asexual studies. Et en fait, ils observent tous les deux à quel point le sexe est politique, en fait, et à quel point, donc ça c'est vraiment Michel Foucault, le sexe est un objet de contrôle des populations, en fait. Et donc Michel Foucault, il insiste vraiment sur le fait que dans les années 60, il y a eu une libération sexuelle, dont je pense qu'on a tous un peu entendu parler, et il dit qu'en fait, c'est pas forcément tant une libération que ça, parce qu'en fait, c'est surtout qu'on a soi-disant brisé le tabou autour du sexe, mais que du coup, c'est devenu encore plus normé, si possible, quoi. Parce que maintenant, voilà, tout le monde sait ce que tout le monde fait, c'est devenu vraiment encore plus central, avec beaucoup plus de représentations médiatiques, etc., de la sexualité, qui en fait rendent le sexe encore plus normé, quoi. Et donc, bon, Foucault, quand il parle de ça, il pense à l'homosexualité, parce que ça le concerne, mais ça s'étend en fait à toutes les formes de sexualité plus ou moins déviantes. Et en fait, si le sexe est un objet de contrôle, que ce soit à travers, on l'a vu pendant tout au cours de l'histoire, les politiques natalistes, les politiques antinatalistes, tout un ordre conservateur qui se base quand même sur la famille et donc sur le couple. Et donc dans le couple, traditionnellement, il y a de la sexualité. Donc la question, ça va être, en fait, si on se retire complètement de ce système, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors ce qu'on voit, c'est qu'apparemment, on essaie de... les réactions du système et des gens qui composent le système ont tendance à être extrêmement violentes. Bon, ça, on peut voir de manière moderne. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'asexualité dans les médias, tout de suite, on a une certaine panique, quoi. Les gens ont l'impression qu'on va venir les attaquer, les empêcher d'avoir, eux, la sexualité dont ils ont envie d'avoir. Enfin, il y a quelque chose de très tabou, en fait, mine de rien. C'est un peu comme si on avait libéré soi-disant la sexualité, et qu'en fait on en avait fait un impératif, et qu'en fait le tabou ultime c'est devenu son absence, en fait, et que ce soit son absence voulue ou non, d'ailleurs, parce que bon, voilà, il y a aussi énormément de problèmes liés à certaines populations qui n'arrivent pas à avoir de sexualité. Enfin, il y a quand même, enfin, c'est un vrai sujet, et c'est extrêmement politique, en fait.
Et donc, si pour essayer de faire le lien avec ton corpus, j'ai l'impression qu'effectivement, les personnages asexuels... En fait, il n'y a pas de personnages qui sortent, en fait, totalement du modèle de société, ou du moins, ils essayent, mais ils sont forcément rattrapés, que ce soit par la figure charismatique, ou chez Victor Hugo, on dit « t'es asexuel, d'accord, mais pour quelle valeur, pourquoi te bats-tu alors ?» Bon, chez Balzac, t'es asexuel, forcément, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et chez George Sand, j'ai l'impression qu'on est un peu proche de Balzac, au sens où t'es asexuel, ça veut dire que tu peux même plus rentrer dans la société. Ouais. Et donc, est-ce que une conclusion de ta, pour l'instant, de ta thèse, ça serait de se dire que il y a aucun roman qui montre vraiment une personne asexuelle qui est accepté ou qui sort vraiment, qui crée vraiment autre chose. Je ne sais pas si j'ai les termes, mais voilà, ouais. Qui n'est pas labellisé comme ouais. Quelqu'un, une vieille fille, c'est ça le terme que tu disais, vieille fille, ou bien quelqu'un qui se bat pour révolutionnaire, ou bien
une figure religieuse.
Ça. Et donc...
Ouais, effectivement, mais je pense que c'est complètement normal, parce qu'en fait, c'est ce que dit Michel Foucault aussi, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point la sexualité est présente, en fait, dans nos vies, et à quel point elle régit nos rapports sociaux, etc. Et en fait, s'en extraire actuellement, c'est quasi impossible. Alors, il y a des gens qui modernement, il y a des propositions, parce que j'en ai très peu parlé, mais les asexuels se revendiquent maintenant. Il y a des chiffres qui montrent qu'à priori, 1 à 4% de la population s'identifierait comme asexuelle. C'est quand même pas mal. Il y a un drapeau asexuel, c'est une communauté qui existe dans la communauté LGBTQ+. C'est quelque chose de réel. Il y a des propositions voilà, pour que ces personnes puissent potentiellement tout simplement vivre leur vie sans qu'on les embête. Mais quand on regarde les témoignages, moi c'est ce que j'ai fait un peu en préliminaire de ma thèse, c'est extrêmement compliqué quoi, de s'extraire de la même manière que c'est compliqué de s'extraire de la société tout court. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'en interrogeant l'absence de sexualité, en fait, on interroge surtout sa surprésence. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Ah. Alors, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur, sur cette dernière formule assez puissante?
On se rend compte qu'en fait, la sexualité est absolument partout, que des fois, elle est un objet de contrôle, comme disait Michel Foucault, que même dans ces formes soi-disant libérées, des fois, on se retrouve dans d'autres pièges qui, en fait, sont encore plus de normativité, etc. Et ma thèse, c'est un travail de recherche, c'est pas un tract, je suis pas en train de dire arrêtez tous d'avoir des rapports. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ces questions-là et à ces représentations-là, et même par rapport à nous, de nous demander, parce qu'on subit tous cette pression, que ce soit une pression totale ou partielle à performer, etc. Enfin, c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup dans les études féministes, dans la déconstruction de la virilité, etc. Même la culture du viol, c'est quelque chose d'extrêmement central dans notre société, en fait. Se rendre compte que c'est impossible de ne pas avoir de vie sexuelle, c'est quand même quelque chose, je trouve. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous faire voir la société un peu différemment et nous faire interroger des choses qui nous semblaient normales. Et que ce soit dans la culture française du 19e siècle ou maintenant... ça me semble plutôt pertinent.
Et donc, est-ce que tu aurais à l'esprit un roman qui essaye de décrire une asexualité, j'ai envie de dire, réussie? Est-ce que t'as des romans ou un roman qui te vient en tête
Je sais qu'il y a des romans modernes. Alors, j'avoue, oui, je m'y suis assez moderne. Peu intéressée, ouais. Je sais que c'est une littérature qui commence à exister. Au 19e siècle, concrètement, je pense que les personnes asexuelles pourraient trouver dans mon corpus des représentations qui pourraient les inspirer complètement. Le modèle révolutionnaire, certes, c'est un peu réducteur, mais c'est quand même assez stylé, on va pas se mentir.
C'est vrai.
Et même Lélia, en fait. Moi, je trouve que... c'est pas forcément le roman le plus facile d'accès de George Sand, mais je sais que je l'ai prêté à des gens qui avaient ces questionnements-là et qui m'ont dit « mais c'est incroyable, en fait, j'ai l'impression que... » En fait, se rendre compte que... Parce qu'il y a beaucoup cette caricature de... toutes ces orientations sexuelles nouvelles, entre guillemets, elles datent d'hier, etc. Au 19e, on se posait pas ces questions. Mais si, en fait, on s'est toujours posé la question. Et d'ailleurs, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à toute l'histoire de la chasteté, du célibat, jusqu'en l'Antiquité, et en fait, les personnes sans sexualité, elles ont toujours existé dans nos sociétés. Je veux dire, même avant le christianisme, il y avait les Vestales, il y a toujours eu des endroits comme ça, un peu spéciaux, où les personnes sans sexualité pouvaient trouver refuge quelque part. C'est peut-être une preuve que ces personnes ont toujours existé. Alors, pour les raisons peuvent être multiples. Les asexuels se disent ça commence juste, donc je saurais pas dire si c'est naturel, si c'est culturel, si c'est lié à un traumatisme, etc. Mais en tout cas, il s'agirait peut-être de commencer à se dire que la sexualité active, c'est peut-être pas une obligation pour tout le monde, et que le désir n'est pas universel, en fait.
Merci beaucoup, Lou, pour être venue parler de ta thèse à ce micro. C'était donc Libido Siendi pour Radio Corpus Grenoble Campus Grenoble. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt.